Bonsoir docteur Ariella.
Bonsoir Yael.
Merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode de notre podcast sur Cannes en français de Quoi de neuf docteur Ariella. Alors la semaine dernière, on a parlé de l'hémorragie et je vous avoue qu'il y avait une question qui me restait pendue aux lèvres, c'était et alors le garrot, quand est-ce qu'on fait un garrot? Bon, d'abord expliquez-nous qu'est-ce qu'un garrot.
Alors un garrot, c'est tout simplement un lien, d'accord, un lien qui sert à comprimer les vaisseaux d'un membre pour arrêter une hémorragie, d'accord.
Ah donc je suis pas folle, ça a un rapport avec l'hémorragie, c'est-à-dire que ça peut aider à arrêter l'hémorragie.
Bien sûr, mais on va en discuter probablement, mais c'est vraiment sous certaines conditions qu'on va l'utiliser, parce que c'est un dispositif, un réel dispositif médical qui est destiné à interrompre, c'est-à-dire à arrêter la circulation du sang dans un membre en comprimant les vaisseaux sanguins par un serrage. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de la compression directe.
Ouais, ouais.
Là, en fait, c'est une compression, mais à distance. On n'appuie pas directement sur la plaie, mais indirectement, on comprime les vaisseaux. Et ainsi, on arrive à notre but, à savoir qu'on arrête la circulation du sang et donc on arrête l'hémorragie.
C'est un peu plus agressif, si ce que je comprends.
Exactement.
Okay. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on met un garrot?
Alors, en fait, il y a trois types. Schématiquement, il y a trois types de garrots. Il y a ce que tout le monde connaît, qui est le garrot tourniquet, mais ceux qui en ont chez eux, normalement, ils savent s'en servir. Donc, je vais rappeler quand même rapidement le protocole, mais pour faire simple, on place le garrot tourniquet autour de la jambe, on serre, on tourne le tourniquet, on surveille quand le saignement s'arrête, on bloque le tourniquet et on note l'heure. Ça, c'est pour le garrot tourniquet. Je fais vite parce que ceux qui l'ont, normalement, ils savent s'en servir.
Et c'est pas tout le monde qui l'a, j'imagine.
Voilà, exactement. Ah, par contre,
moi, j'ai pas de garrot tourniquet chez moi. Hein.
Voilà. Par contre, si vous voulez faire un tioul dans le Negev,
okay.
Vous êtes avec votre ami Dan et vous partez comme ça rapidement en vous disant bon, bah, écoute, tu laisses ton chien pirate et on va faire le tioul. Vous partez tous les deux et puis Dan tombe. Et là, il se fait une très grosse plaie, une hémorragie, d'accord ? Donc, un saignement qui ne s'arrête pas spontanément. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là, en fait, qu'on va faire un garrot comme un tourniquet, un garrot, mais de façon artisanale. Et comment on fait ? On trouve un morceau de tissu propre, hein, évidemment, qui doit être large, solide, pas élastique, qui doit être suffisamment résistant parce qu'il doit supporter la pression qu'on va mettre au moment de nouer, de faire le serrage. Donc ça peut être une écharpe, une cravate.
Bien sûr, parce qu'on amène toujours ça quand on va dans un tioul dans le Negev, c'est sûr.
Voilà. Mais oui, mais ceci dit, ça peut être, Dan tombe, et ben vous déchirez votre vêtement. Vous prenez votre vêtement, vous le déchirez. Voilà. Ce qui compte, encore une fois, c'est que ça soit large.
Et
généralement, il faut que ça fasse 3 à 5 cm de large, 1,50 m de long. Donc, vous prenez votre grand t-shirt que vous aimez tant et vous le déchirez. Il faut que ça fasse 1,50 m et 3 à 5 cm de large. Et là, on le place un peu au-dessus de la plaie. Attention, hein, pas sur la plaie, mais au-dessus de la plaie.
Ah, ok.
Après, on...
Où au-dessus de la plaie? Combien au-dessus de la plaie?
5 à 7 cm au-dessus de la plaie.
D'accord.
On verra après, si vous voulez bien, les indications exactes du garrot. Parce que évidemment, en temps normal, avant de lui faire le garrot dont on parle, il faut quand même appuyer, faire tout ce dont on a parlé la dernière fois.
Donc, avant de décider de lui faire un garrot à mon copain Dan, je dois quand même essayer d'éviter le garrot, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et si jamais je vois que l'hémorragie ne s'arrête pas, là, je me dis, bon, pour le sauver, il faut faire un garrot jusqu'à ce que les secours arrivent.
Exactement. Et donc, on fait un double tour, 5 à 7 cm au-dessus de la plaie.
Okay.
On fait un double tour, on fait un premier nœud. Et puis après, il faut trouver un objet solide qui est autour de vous. Il doit faire 10 à 20 cm de long. à peu près. Il faut qu'il soit solide, donc dur. Hein. Ça doit être un bout de bois, un bout de métal suffisamment solide, parce que c'est ça qui va servir à serrer, d'accord, à serrer la bande que vous venez de mettre. Donc vous avez fait le double tour, vous avez fait un premier nœud, vous posez le bâton, là vous faites un premier nœud, un deuxième nœud, puis vous vous mettez à serrer et à tourner. On tourne, on tourne, on tourne, comme pour le tourniquet, jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Wow. Et quand ça s'arrête...
Comme un robinet, en fait.
Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, ça s'arrête, et on note l'heure, et on donne l'alerte. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième, qui est quand même, ça peut arriver, hein, vous n'avez pas de bâton autour de vous. Vous ne trouvez pas, et il faut à tout prix faire le garrot. Dans ce cas-là, on fait simple. On reste sur le morceau en tissu propre avec votre vêtement qui est déchiré. On fait la même chose, c'est-à-dire on se met au-dessus de la plaie. Mais en fait, là, avec le morceau de tissu que vous avez eu, là, qui fait 1,50 m de long, vous faites une boucle, vous la posez au-dessus de la plaie et vous rentrez le lien dans la boucle, dans le trou de la boucle, et vous serrez très très fort et vous faites un double nœud pour le maintenir. Ouais. Vous avez compris ?
Oui, j'imagine le double nœud. En fait, la différence entre celui-ci et le précédent, c'est juste que je n'ai pas un bâton au milieu.
Exactement. D'accord. Si vous trouvez pas de bâton rapidement accessible, à ce moment-là, vous faites une boucle avec votre tissu, ouais. Vous rentrez le lien dans le trou de la boucle et vous serrez très fort. Ça peut être une ceinture hein, aussi. Hein. Ouais. L'essentiel, c'est quand même de faire garrot. Mais quoi qu'il en soit... On n'oublie pas, hein, toujours, hein, on se protège, on vérifie qu'on est en sécurité et on donne l'alerte. Et là, dans le cas précis du garrot, il faut noter l'heure à laquelle on a posé le garrot.
Alors pourquoi ? Pourquoi on note l'heure ?
Alors, parce que c'est pour ça qu'on fait toujours très attention avec les garrots, parce que ça peut entraîner des complications médicales qui ne sont absolument pas négligeables. Quand on fait un garrot, donc, dont l'objectif est d'arrêter le saignement, on arrête certes le saignement, mais qui dit qu'on arrête le saignement dit aussi qu'on comprime, par exemple, tous les nerfs. Donc, les lésions liées aux nerfs, les lésions neurologiques, à partir de 2 heures de pose de garrot, on commence à avoir les premiers symptômes des lésions, avec des engourdissements, des picotements, et ça peut aller jusqu'à la paralysie. Wow. Pour tout ce qui est vasculaire, c'est-à-dire lié à la circulation sanguine, eh ben, la compression des vaisseaux peut entraîner, à partir de 6 heures de pause, ça peut entraîner une gangrène et une perte du membre. Donc, c'est absolument pas négligeable. Et alors, bon, je me permets de vous expliquer une troisième complication. Après, je m'arrêterai là parce que sinon, il y a évidemment beaucoup d'autres complications. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de revascularisation. Le syndrome de revascularisation, c'est au moment où on enlève le garrot. Et bien, à ce moment-là, tout ce qui a été comprimé dans les vaisseaux et qui a entraîné, parce qu'en fait, Dans le sang, il va y avoir des déchets qui vont s'accumuler. Et au moment où on enlève le garrot, ça va tout de suite être diffusé dans le sang, puisque la circulation sanguine va se remettre en route. Et à ce moment-là, ça diffuse les déchets et on peut mourir de ces déchets-là. Donc vraiment, à cause des... Je vous redis les lésions. Ça peut donner des lésions neurologiques. Ça peut donner des lésions vasculaires, donc liées aux vaisseaux. Donc, ce qu'on appelle le syndrome de revascularisation, je vous le vulgarise exprès, hein, mais c'est pour que vous compreniez que vraiment...
Ouais, mais ça donne pas envie de faire un garrot du tout. C'est-à-dire que ça me fait peur ce que vous me dites. Voilà. Moi, ce que j'entends, c'est éviter à tout prix le garrot.
Non, il y a quand même des conditions quand même qui sont bien spécifiques. Hein,
alors quand ? Quand est-ce qu'on le met et quand est-ce qu'on ne le met pas ?
Alors, c'est très simple. Déjà, là, je vous rappelle qu'on est en train de parler de tout ce qui est traumatisme, d'accord ? Okay. C'est-à-dire quelque chose qui est... Bon. Mais il ne faut pas oublier que le garrot, on s'en sert aussi en médecine hein, pour faire certains actes. On utilise des garrots, ok ? Donc là, dans le cadre des traumatismes, il y a 2 indications, en fait, au garrot. Il y a premièrement, en cas d'échec du pansement compressif,
okay.
C'est-à-dire que le sang continue de couler, ouais. Alors vraiment... Vous avez fait un super pansement compressif. Et la deuxième indication, c'est que, en fait, la compression directe, elle n'est pas possible. Et pourquoi elle ne serait pas possible ? Parce que la plaie, elle est inaccessible, on n'arrive pas à l'atteindre, parce qu'on est face à une fracture qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des os apparents ou de multiples fractures. Quand on avait parlé la semaine dernière de l'accident de VTT, eh bien, il y a des fractures un peu partout. Il y a une fracture ouverte. Bon, bah, c'est garrot. Il y a aussi, très très important, dès qu'il y a un corps étranger, si Dan était tombé sur une bouteille, par exemple, et qu'il avait un gros morceau de verre, on ne touche surtout pas les corps étrangers, on ne touche pas le morceau de verre, on ne touche pas un couteau, oui. On ne le touche pas. On ne touche pas les corps étrangers et on fait un garrot. 5 à 7 cm au-dessus, on fait le garrot. Et il y a une dernière indication, c'est aussi quand on se retrouve dans une situation où il y a de multiples blessés, type une guerre, un attentat, où il y a beaucoup de blessés d'un coup, qui impliquent beaucoup de blessés. Et dans ce cas-là, on va primoriser le garrot pour une question de rapidité. Ouais, en
c'est
fait.
Ça, pour aller plus vite. Quitte à prendre le risque de faire des dommages sur une
Exactement.
Des victimes, mais au moins en sauver un maximum. Mais,
voilà, c'est-à-dire qu'on va poser le garrot et de toute façon, sur un terrain de guerre, on va poser, soit on pose le garrot à la personne qui est avec nous, soit on se le pose soi-même, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, on est dans un environnement de guerre et l'objectif, les premiers secours en cas de guerre, ce n'est pas la même chose. Quand je vous parlais de protection et tout, c'est pas la même organisation quand on est sur un terrain de guerre. Et là, en fait, l'objectif, ça va être l'extraction, c'est-à-dire qu'on va... On va sortir de la zone qui est dangereuse et donc on sera à moins de 2 heures normalement hein, de la levée du garrot. On fera attention au moment où on va retirer le garrot, mais il n'y aura pas de complications neurologiques, il n'y aura pas les conséquences dont je vous ai parlé parce que ça sera suffisamment court. Vous
D'accord.
avez compris ?
Oui, absolument. Absolument, voilà. C'est très clair. Ok, c'est très clair. Donc ça, c'est les cas où on accepte de mettre un garrot. Alors, je vais vous poser une question qui est d'actualité en Israël aujourd'hui. On est à l'aube de Pessah, donc le début du printemps, et les serpents sont en train de sortir de leur hibernation. Et on en voit beaucoup. Alors, est-ce qu'on fait un garrot quand on a été confronté à une morsure de serpent ?
Bah, je suis désolée, Yael, mais non. On ne fait pas de garrot.
Ah, waouh !
Non, il n'y a pas de garrot en cas de morsure de serpent. De la même façon, je m'autorise dans ce cas-là, si vous me parlez de ça, ça me fait sourire, mais d'un autre côté, je pense que c'est fondamental d'en parler. Je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai pu entendre, moi, ou que j'ai pu voir, même si les morsures de serpent, ce n'est pas si courant, mais on peut entendre ce genre de choses, donc je préfère quand même en parler. Donc on ne fait pas de garrot, on ne fait pas de pansement compressif, on ne pose pas de glace, ni de pommade, ni de crème.
On suce alors la plaie ?
Non, on ne suce pas la plaie non plus. On ne triture pas avec un couteau. On ne donne pas de café, d'alcool, de thé en se disant bon. et puis, surtout, je suis désolée.
Je ne savais pas qu'il y en avait qui buvaient un coup après une morsure de serpent. Pardon, excusez-moi. J'imagine le type qui vient de se faire mordre par un serpent et qui se dit allez, un petit coup, on y va.
Mais si, café, alcool. J'ai entendu ça.
Je ne savais pas.
Pardon. Non, pas de souci. Et surtout, je suis désolée pour ceux pour qui c'est cher, hein, mais en pratique, les kits anti-venins, ça n'a pas prouvé son efficacité. Hein.
Ah, waouh!
Donc, je suis désolée, mais au contraire, ça a prouvé que ça retardait la prise en charge médicale. Au contraire, parce qu'en fait, on est là à chercher le kit anti-venin. Et alors, comment on fait? Alors, comment on le pose? Et est-ce qu'il aspire? Il n'aspire pas? Et je ne sais pas quoi. Bon, en pratique, on ne donne pas l'alerte. On ne fait pas ce qu'il faut. Et donc, voilà, c'est vraiment... Toutes ces petites idées-là préconçues autour de la morsure de serpent, je suis désolée, mais en fait, tout ça, ça ne fonctionne pas.
D'accord. Donc, vous nous avez brisé tous les mythes. Alors, je fais quoi, moi, maintenant, avec mon copain Dan, qui, après s'être ramassé en VTT, maintenant, s'est fait bouffer par un serpent. Je fais quoi ?
Eh bien, écoutez, en fait, c'est très compliqué ce que je vais dire, parce qu'en médecine, tout ce qui est simple... C'est toujours le plus complexe. Mais en fait, ce qu'il faut faire en cas de morsure des serpents, c'est de rester calme. L'essentiel, c'est de rester calme, d'allonger le blessé et de donner l'alerte. Pourquoi, Yael ? Pourquoi il faut rester calme et rassurer l'entourage ?
Parce alors, qu'en fait, oui, allez-y. Non, je pensais que vous me posiez la question et j'essayais d'être une bonne élève.
Parce que, en fait, tout ce qui peut entraîner une accélération du rythme du cœur, c'est-à-dire qu'il soit debout, qu'on lui donne du café, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui peut accélérer le rythme cardiaque, en fait, ça va favoriser la diffusion du venin. Et il faut savoir que je préfère quand même rassurer les gens autour des serpents. Hein. Il y a quand même, c'est 50% seulement des serpents qui vont libérer du venin. Hein. Sinon, c'est de la morsure simple, c'est que des symptômes locaux. Oui. Mais quand bien même, et vraiment, je veux vous rassurer là-dessus, et c'est tout l'objectif, entre guillemets, du traitement de la morsure de serpent. Je veux vous rassurer dans le sens où, à moins que Dan soit allergique, et dans ce cas-là, il le sait, parce qu'il a son stylo anti-allergique sur lui, en dehors de l'allergie à des produits qu'il y a dans le venin de serpent, les symptômes qu'il peut y avoir en cas de diffusion du venin, ça met quelques heures, voire quelques jours à apparaître.
Oui, enfin, il ne faut pas être en Australie pour dire ça.
Ah, peut-être.
D'accord.
Et dans le Néguer, là, il y a,
d'accord, alors on reste en...
Oui, il y a Mada qui peut arriver très vite.
C'est ça.
Donc, quoi qu'il en soit, on reste calme, on allonge le blessé, voire on la met, vous savez, sur le côté, ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité, parce que des fois, on peut faire un petit malaise ou la chaleur, tout ça. Donc, on allonge le blessé, on immobilise, c'est-à-dire qu'on laisse bien droit, bien calme, le membre qui a été mordu, encore une fois, pour éviter la diffusion. Mmh. On rassure l'entourage. On peut évidemment désinfecter avec de l'eau, du savon. Ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'essentiel, ça va être d'appeler Mada, d'appeler et on vous donnera les consignes. Typiquement, il faut aussi retirer tout ce qui va pouvoir serrer la zone mordue. Donc, on va retirer les bagues, les montres, les chaussures. Mais vraiment,
le contraire exact d'un garrot, quoi.
Voilà. Donc concrètement, ne vous inquiétez pas. Les serpents, ça fait peur. Mais l'essentiel, c'est de rester calme.
D'accord. Donc, alors maintenant, toute blague mise à part, quelqu'un se fait mordre. Et c'est des choses qui malheureusement arrivent chaque année en Israël, surtout au début du mois de mars-avril, quand les serpents sortent de leur hibernation. Ils sont pleins de venin parce qu'ils ont, enfin, ceux qui sont venimeux, n'ont pas encore mordu. Et donc, l'important, c'est de laisser la personne au calme, de la calmer, peut-être des respirations douces, et de surtout ne pas toucher à la plaie, de ne pas l'infecter encore plus qu'elle ne risque de l'être, c'est-à-dire ne pas sucer, ne pas mettre sa bouche dessus.
Exactement, voilà. Exactement.
Et attendre les consignes du Magen David Adom.
Exactement, exactement. On reste calme. Je vous dis après, si vous l'avez en tête, retirez quand même les bagues et les chaussures, mais... pas d'inquiétude, on reste calme et on ne touche à rien et on appelle. Et on allonge, très important, on allonge
oui, pour éviter les mouvements cardiaques trop, trop, trop forts.
Exact.
Merci beaucoup, docteur Ariella, de nous avoir rassurés sur les morsures de serpents qui sont peut-être pas aussi graves que ça. On vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Quoi de neuf, docteur Ariella.
Merci beaucoup, Gaëlle.